Nous n'aimons pas les tentations. Cela nous rappelle notre pauvrette nature humaine, comme nous décrivait le réformateur Jean Calvin. Mais les tentations, c'est tentant. Jusqu'à en faire des supports de publicité et des émissions de télé-réalité. La tentation, cela fonctionne pour nous rappeler que nous existons et que nous sommes capables de franchir des limites. Ce récit de Jésus au désert se trouve dans l'évangile de Luc, mais aussi dans celui de Matthieu, et brièvement aussi chez Marc. Il est dans ces trois évangiles racontés au tout début du ministère de Jésus, après son baptême. Les jeunes, qui est-ce qui baptise Jésus ? Ouais, il me regarde avec des yeux. Mathilde. Très bien. Jean-Baptiste, bravo. C'est son cousin, Jean-Baptiste, qui baptise Jésus. Or, dans les listes des lectures écuméniques proposées les dimanches, il est toujours gardé pour le premier dimanche de carême, ce récit. Comme un parallèle entre le jeûne de Jésus dans le désert pendant 40 jours et les 40 jours de carême où les chrétiens catholiques ont l'habitude de jeûner et d'accorder plus de temps à la prière et aux autres. Pour les protestants, le réformateur Martin Luther, au XVIe siècle, a d'abord gardé le carême. Puis ensuite, Jean Calvin, n'en ayant pas trouvé l'origine dans la Bible, l'a rejeté. Pas de jeûne obligatoire pour les protestants. Mais aujourd'hui, le temps de carême se partage aussi chez les protestants d'une autre manière, comme une occasion privilégiée pour donner plus de temps à la prière, à la lecture de la Bible et à l'attention aux autres. À partir d'aujourd'hui, premier dimanche de carême, 40 jours nous sont donnés pour revoir les priorités de nos vies. Le premier jour du carême pourrait être, pour nous protestants, comme un 1er janvier, où on prend des bonnes résolutions. Pour 40 jours et plus, si affinité, pour marcher aux côtés de Dieu. Alors entrons dans cette histoire de Jésus et du diable, du tentateur, de Satan, des noms dont nous n'aimons pas trop entendre parler. Qui est donc ce diabolon ? Diabolon, c'est le terme grec d'origine dans les textes bibliques. Oublions tout de suite les représentations picturales que nous avons en tête. Noir et rouge, avec des cornes sur la tête, un trident, une queue pointue et parfois même des ailes de dragon. Toutes ces représentations ne sont qu'images des hommes qui, au cours des siècles, ont eu besoin de se représenter cet adversaire du Dieu unique. Le Dieu unique, le nôtre, parlons-en justement. Quand j'aborde avec les jeunes du caté la question délicate, mais ô combien importante, du mal, j'explique que le diable est mal nommé. Il ne s'agit pas d'un Dieu du mal, qui depuis les enfers lutterait sans relâche avec le Dieu du bien, le nôtre, lui dans son ciel, les forces d'en haut contre les forces d'en bas, le côté obscur de la force contre le côté lumineux de la force. Certains chrétiens pensent cela, qu'il existe un Dieu du mal contre notre Dieu du bien. Mais comment est-il alors possible pour nous de croire en deux dieux ? Ne sommes-nous pas monothéistes ? Monothéiste, les jeunes, ça veut dire croire en un seul Dieu. Deutéronome 6, verset 4. L'Éternel, notre Dieu, est un. Avec Moïse, à la suite des patriarches, un Dieu unique est confessé. Le mot grec « diabolon » traduit en réalité une multiplicité divisée. Non entière, qui s'insinue, qui se multiplie et qui sème la zizanie. Le diable, dans l'évangile de Marc, est qualifié de légion. Jésus guérit un homme d'un esprit mauvais. « Comment t'appelles-tu ? » lui demande Jésus. « Mon nom est Légion, car nous sommes nombreux, » répond l'esprit mauvais. Le diable dont parle la Bible n'est pas le dieu du mal, mais des maux, M-A-U-X, des troubles qui divisent notre être et le monde et nous éloignent de Dieu un, du Dieu un et de notre nature d'enfant de Dieu. Ces mots, M-A-U-X, nous les connaissons. Ils font partie de nous. Vous savez, c'est la petite voix intérieure qui nous fait perdre confiance. C'est la peur, la culpabilité, la jalousie, la haine, la colère ou la rancune. Tout ce qui divise notre être et celui de notre prochain est le mal. Je vous propose, pour nous aider à nous débarrasser de nos fausses images, de nommer le diabolon le diviseur. Jésus est donc dans le désert. Dans la Bible, c'est le lieu, comme je disais aux enfants, de la présence de Dieu, mais aussi le lieu des temps difficiles et de l'absence de Dieu. Le peuple hébreu, qu'est-ce qui lui est arrivé en Égypte ? Les jeunes, qu'est-ce qu'il a été en Égypte, le peuple hébreu ? Oui ? Il était esclave. Il a erré dans le désert combien de temps ? Vous vous rappelez ? Alors, 40, mais pas jours. Pas mois, années. Le peuple hébreu a erré 40 années dans le désert, à la recherche de lui-même, de son identité et de son Dieu, jusqu'à atteindre la terre promise. 40, dans la Bible, c'est le symbole du temps nécessaire pour cheminer, pour se battre, pour chercher, se trouver et se retrouver enfant de Dieu. À vous de voir s'il est pertinent de faire un parallèle avec la crise de la quarantaine. Jésus a faim. L'évangile nous rappelle tout de suite l'humanité de Jésus. Il est comme nous tous. Vous savez, comme vous les jeunes, quand à partir d'11h30, quand on essaye de travailler, vous nous dites « quand est-ce qu'on mange ? On a faim ?» Jésus connaît les mêmes besoins élémentaires que nous. Première tentation du diviseur. Si tu es fils de Dieu, dis à cette pierre qu'elle devienne du pain. Cette phrase « fils de Dieu » a été prononcée par Dieu lors du baptême de Jésus, juste avant dans l'Évangile. « Tu es mon fils bien-aimé », a dit Dieu à Jésus pendant son baptême. Le diviseur était là, ou en tout cas il sait que Jésus est fils. Et par sa tentation, il lui propose d'oublier tout cela et de devenir maître de lui-même. Vas-tu rester à ta place de fils ou vas-tu plutôt utiliser la force de Dieu pour combler tes propres besoins ? Voilà ce que le diviseur insinue. L'homme ne vivra pas de pain seulement. C'est ce qui nous a été rappelé aussi par l'école biblique. Jésus répond en citant la Torah, la parole de Dieu. Entre le diviseur qui voudrait l'éloigner de son père, il place la parole qui lui donne son identité. Face à la tentation, Jésus fait barrage avec la parole de Dieu, puissante. Le diviseur recule une première fois. Et puis il revient à la charge et poursuit avec une nouvelle tentation, celle du pouvoir. Toute humaine, celle-là aussi. Je peux te donner le pouvoir et la richesse de tous ces royaumes. Mets-toi à genoux devant moi. Là encore, rappel bien humain. Que sommes-nous prêts à oublier pour avoir plus de pouvoir, plus de richesse, plus de beauté ou de reconnaissance sociale ? Nos valeurs, notre famille, nos amis, notre foi. Une fois de plus, Jésus brandit la parole. « Tu te prosterneras devant le Seigneur ton Dieu, lui seul. » Jésus confesse sa confiance en l'Éternel, même au cœur de ce terrible désert, et renonce en même temps à être le libérateur politique d'Israël. Le diviseur recule une deuxième fois. Troisième tentative, encore dans un lieu différent, pour fragiliser Jésus, ici sur le toit du temple. Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas. Le diviseur connaît la Torah et cite un psaume. Dieu commandera à ses anges de te garder. Il attaque Jésus sur son propre terrain. Et c'est le type même de phrase qui sera dite à Jésus sur la croix. Si tu es fils de Dieu, sauve-toi toi-même. Tu ne mettras pas le Seigneur ton Dieu à l'épreuve. Jésus clôt cette troisième et dernière tentation avec une nouvelle parole de vie. Le diviseur n'a pas réussi à diviser Jésus. Il n'a pas réussi à se placer entre lui et son Père. Il n'a pas réussi à faire écran, à diviser son enfant de Dieu. La parole seule de l'Éternel a vaincu. C'est ici à la fois la pleine humanité de Jésus, qui a des besoins comme nous tous, qui est tenté, et en même temps sa pleine divinité qui est mise en avant. Il est vainqueur. Jésus, vrai homme, vrai Dieu, c'est cette fameuse double nature qui a été affirmée dès les premiers siècles de l'Église. Dans nos vies au quotidien, des diviseurs de toutes sortes, venant de nous-mêmes ou de l'extérieur, essayent de mettre à mal notre confiance en Dieu. Ce texte nous encourage. Nous pouvons garder confiance, même et surtout dans les déserts les plus arides de nos vies et auprès des diviseurs les plus acharnés, car la parole de Dieu sera toujours la plus forte. C'est une promesse, car nous savons bien que souvent nous nous sentons terrassés, soumis à des maux de toutes sortes. Mais toujours en nous habite l'Esprit de Dieu. C'est ce que les enfants ont chanté, et c'est ce qui est redit au tout début de notre texte. Jésus, rempli de l'Esprit Saint, va au désert. Ne l'oublions jamais, c'est cet esprit de lumière qui nous conduit. Prions. Écoutons la parole de Dieu, partageons-la, méditons-la, laissons-la remplir nos vies, notre corps et notre esprit, pour que dans les moments de pire zizanie, nous puissions tranquillement puiser à notre source et faire taire le diviseur par des paroles de vie. Ne nous laisse pas entrer en tentation. Je termine avec cette demande du Notre Père. Ne nous laisse pas entrer en tentation. Après, les jeunes, il y a quoi dans la prière ? Mais délivre-nous du mal. La tentation est un concept assez important pour qu'il figure dans les essentiels de la prière des chrétiens. Ici, dans notre passage, ce sont les tentations de se servir soi-même en utilisant Dieu, de prendre le pouvoir, d'être maître en toutes choses au détriment des autres et du monde, et encore la tentation de dicter à Dieu ce qu'il doit faire pour nous. Seigneur, ne nous laisse pas entrer dans toutes ces tentations qui sont tellement humaines. Ne nous laisse pas nous couper de toi, mettre un obstacle entre ta parole et nos vies et choisir la voie du mal qui divise. Ne nous laisse pas croire que sans toi nous serons plus forts. Ne nous laisse pas croire qu'être enfant de Dieu ne compte pas. C'est tout cela que nous exprimons quand nous récitons le Notre Père. Car en effet, si ce passage de l'Évangile nous parle de la nature humaine et divine de Jésus, elle fait aussi écho à notre propre identité, pleinement humain. Nous n'en sommes pas moins enfants de Dieu. Chacun de nous porte en lui, en elle, la lumière du Dieu vivant. La tentation est de le nier, de la cacher, de ne pas nourrir cette lumière en nous. Mais la promesse est là. Jamais cette part de Dieu en nous ne s'éteindra complètement. Notre Dieu est fidèle, nous sommes ses enfants. Si nous lui donnons notre confiance, il sera toujours là pour nous, avec nous, pour choisir la vie. Notre Père qui es aux cieux, ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.